L'air de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous ne vous êtes pas trompés, vous écoutez bel et bien l'heure de la vérité. Oui, l'heure de la vérité, c'est votre émission de méditation profonde. Oui, l'heure de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans compromis et sans concession. Oui, la vérité qui divise et qui dérange, mais surtout, la vérité qui affranchit, qui libère, qui sauve. Nous bénissons le Très-Haut pour ce merveilleux privilège qu'il nous accorde une fois de plus. Non seulement de voir ce nouveau jour, d'être compté parmi les vivants jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure-ci, mais surtout de passer un peu de notre temps dans sa sainte présence. Vous tous qui avez l'opportunité d'écouter cette émission, et surtout d'être compté encore parmi les vivants jusqu'à cette heure-ci, rendez grâce au Seigneur, parce que vous le savez autant que moi, que beaucoup n'ont pas vu ce nouveau jour, ou bien faites un tour dans les morgues, et vous conviendrez avec moi que c'est une grâce exceptionnelle, pas parce que nous avons mérité que le Seigneur nous accorde une fois de plus d'être compté parmi les vivants. Et surtout vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, c'est une grâce de plus que le Seigneur vous accorde, à savoir le recevoir dans vos cœurs pendant qu'il est encore temps. Vous dites que si, là où vous êtes, si dans votre cœur, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore là, faites tout pour le faire entrer. Pourquoi pas à partir de ce moment même ou avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit qu'il est le seul chemin qui mène au paradis, qui mène au ciel. Donc, si vous voulez réserver votre place au paradis et après votre mort sur cette terre, recevez tout simplement le Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur, je suis une pauvre pécheresse, mais je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je te confesse mes péchés, je te demande sincèrement pardon et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Et si vous faites cette prière avec foi et sincérité, le Seigneur Jésus-Christ va vous exaucer, parce que lui-même il a dit que je ne mettrai point dehors quiconque vient à moi. Oui, pour vous servir une fois de plus, je suis, je reste, je demeure toujours votre très humble serviteur, le pasteur Rodrigue Genji. Cette émission, l'aide de la vérité, et oui, tout se déroule sous l'œil très vigilant de Sa Majesté, Son Excellence, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'incomparable, toujours imité et inégalé, l'Alpha et l'Oméga, le Prince de Paix, l'admirable Conseiller, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite une fois de plus à ouvrir grandement vos cœurs et surtout vos oreilles. Et surtout avoir un stylo et sur quoi noter. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, mon vœu le plus ardent, c'est que votre foi soit fondée uniquement sur la parole de Dieu. Donc, relevez tous les versets bibliques et après, prenez tout votre temps pour examiner à tête reposée. C'est très, très important. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans la même lancée. Nous sommes dans cette série d'enseignements concernant les fausses doctrines. Après avoir vu les fausses doctrines concernant Jésus-Christ, le chemin du salut, le baptême, les serviteurs de Dieu, et nous sommes présentement sur l'Église, et avant de continuer, je tiens à saluer tous ces nombreux auditeurs qui écoutent cette émission « L'aide de la vérité » à Bazou, à Balengou, Bangoula, Bangoua, Bamena. En fait, je ne peux pas citer tous ces villages qui environnent Banganté et même au loin qui écoutent attentivement cette émission « L'aide de la vérité ». Je vous adresse mes sincères et chaleureuses salutations dans le magnifique, tout-puissant et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Avant de continuer, comme je le disais tantôt, nous sommes en train de nous intéresser à l'Église. Déjà, j'ai posé la question, qu'est-ce que l'Église? Et lorsqu'on pose cette question, chacun a sa petite réponse, mais que dit réellement la Bible? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, concernant l'Église une fois de plus, puisque nous avons commencé à étudier ce sujet la dernière fois, nous allons une fois de plus nous intéresser aux serviteurs de Dieu. Puis je vais ouvrir une petite parenthèse concernant les serviteurs de Dieu avant de continuer. Oui, nous avons vu que, à la lumière des Saintes Écritures, les choses ne se passent pas toujours comme Dieu l'a prévu. Que ce soit concernant les serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont tordues ou bien les choses ne sont pas exactement à leur place. Et nous avons également vu qu'il y a beaucoup qui se font appeler des serviteurs de Dieu alors qu'en réalité ils ne le sont pas. Mais je tiens quand même à signaler quelque chose. Je vous disais que ce n'est pas parce qu'il y a le faux que le vrai n'existe pas. S'il y a les faux serviteurs de Dieu, les faux pasteurs, les faux prophètes et autres, il y a également les vrais pasteurs, les vrais prophètes, les vrais serviteurs de Dieu. Si le faux existe, c'est que le vrai, l'original existe aussi. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. 1 Timothée chapitre 5, le verset 17, où il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Oui, la Bible nous recommande d'honorer ceux-là qui travaillent véritablement pour le Seigneur. Pour dire que quoi? Ceux qui sont autour de nous, qui font correctement leur travail en tant que serviteurs de Dieu, doivent être honorés et respectés. Oui, il faut que cela soit clair. Ce n'est pas parce qu'il y a les faux bergers, les faux pasteurs, les faux prophètes, qu'on ne doit pas honorer ceux-là qui font correctement leur travail, ceux-là qui sont vraiment appelés de Dieu et qui s'efforcent jour après jour de prêcher réellement la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Donc, aucune personne n'a le droit de mépriser un vrai serviteur de Dieu. Et toujours dans cette même lancée, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 12, au verset 13, il est écrit, « Nous vous prions, frères et sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » Oui, la Bible nous demande d'avoir de la considération pour ceux qui vous dirigent sur le droit chemin. Donc, les vrais serviteurs de Dieu qui ont pour but, pour mission de diriger les hommes sur le chemin de la vérité doivent être respectés. La Bible nous dit clairement qu'il faut avoir envers eux beaucoup de considération et surtout ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Ceci dit, la vérité c'est que ces serviteurs de Dieu qui font honnêtement leur travail sont vraiment très peu. Ça c'est une réalité. Par exemple, si nous lisons dans 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3, où il est écrit, 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3, il est écrit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Retenez bien, certaines personnes croient que la piété est une source de gain. Beaucoup croient que le fait de servir Dieu, de prêcher l'évangile, c'est une source de gain. Beaucoup pensent qu'ils doivent gagner de l'argent en prêchant l'évangile ou en se faisant passer pour un serviteur de Dieu. Et la Bible nous dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La Bible est claire et formelle. La piété n'est pas une source de gain. Donc ceux-là qui pensent que servir Dieu veut dire gagner de l'argent, vraiment doivent abandonner les choses de Dieu et la parole de Dieu pour aller faire autre chose. Parce que l'homme peut gagner sa vie sur la terre de plusieurs manières. En allant au champ, en ouvrant une boutique. Oui, il y a tellement d'opportunités pour gagner de l'argent. Mais si certaines personnes pensent qu'en portant un titre religieux, en arrêtant la Bible, en même cela va leur donner de gagner beaucoup d'argent, qu'ils fassent très très attention. Ils doivent se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 18 au verset 19, il est écrit. Oui, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 18 au verset 19, il est écrit. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Oui, la Bible nous dit qu'il y a certaines personnes qui ont pour Dieu leur ventre. Il y a beaucoup qui servent Dieu tout simplement à cause de leur ventre. Oui, parce que ils se sont dit qu'en ayant un titre religieux, en étant engagés comme un fonctionnaire dans un système religieux, au moins ils auront de quoi manger tous les jours pour bourrer leur ventre. La Bible dit que cela, c'est la perdition qui les attend. Parce que on ne doit pas servir Dieu à cause de notre ventre. Ceux qui sont là à cause de leur ventre ne peuvent pas prêcher la vérité aux gens. Parce qu'ils savent qu'en prêchant la vérité, ça risque de faire fuir les gens. Et ils sont obligés de prêcher de n'importe quoi pourvu qu'on les donne à manger. Et dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5 à partir du premier verset, oui, c'est l'apôtre Pierre qui parle ici. Nous sommes dans sa première lettre au chapitre 5. Voici ce que l'apôtre Pierre dit. 1 Pierre 5 à partir du premier verset au verset 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens ou aux dirigeants qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, non pour de l'argent, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. En étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Oui, l'apôtre Pierre demande à ceux qui dirigent, à ceux qui sont comme dirigeants, de ne pas faire ce travail à cause d'un gain, à cause de l'argent. Mais c'est le contraire que nous voyons parfois autour de nous. Oui, c'est exactement le contraire. Il y a quelques jours, une dame est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle avait vraiment des sérieux problèmes d'ordre spirituel. Et c'était vrai. Elle m'a expliqué en détail ses problèmes qui nécessitaient des conseils et même des prières. Ce qui était vraiment surprenant dans tout cela, c'est que elle m'a dit qu'elle est partie voir un homme de Dieu et lui a soumis son problème. Et cet homme de Dieu lui a dit, avant que je ne bouge pour aller faire quoi que ce soit, il faut me donner de l'argent. Elle était dépassée. Elle a dit, je suis tellement dans les problèmes jusqu'au cou. Comment est-ce qu'on peut me demander de l'argent avant de m'aider? Est-ce que dans les choses de Dieu, l'argent doit passer en première position? Voilà. Elle était vraiment dépassée. Et c'est lorsqu'elle a compris que moi je ne travaille pas pour un système religieux, je travaille pour le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle s'est dit qu'elle pouvait venir vers moi et que malgré le fait qu'elle n'est pas dans ma religion, comme on le dit vulgairement dans le monde, je pouvais l'écouter et je pouvais faire quelque chose pour elle. Elle est venue me voir, j'ai pris rendez-vous avec elle. Je suis parti chez elle, on a prié, et les choses se sont bien passées. Et je crois que, par la grâce de Dieu, tout ce que cette femme avait comme problème dans sa famille et avec ses enfants, je crois que Dieu a intervenu et que Dieu va continuer à intervenir afin que cela serve de témoignage autour d'elle pour montrer que ceux qui se confient véritablement en Dieu ne peuvent pas être déçus. Mais ceux qui se confient en des hommes et en des religions pourront être vraiment déçus. Parce que beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont en train de servir Dieu, en réalité, sont là pour servir les ventres et non Dieu. Et il dit en passant que cette femme était une veuve avec de nombreux enfants. Imaginez un peu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, le verset 8, voici ce qu'a dit le Seigneur Jésus. L'évangile de Matthieu, chapitre 10, le verset 8. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le Seigneur Jésus-Christ est clair et formel. On doit prier, chasser les démons, prêcher l'évangile gratuitement. Écoutez-moi très bien. Vous qui vous faites arnaquer tous les jours dans les systèmes religieux, ouvrez vos yeux. La chose de Dieu n'est pas un lieu de commerce, n'est pas une boutique, n'est pas un lieu de business. On vous fait payer même ce que vous ne devez pas payer. On utilise la Bible pour vous braquer. Oui, laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs sortes de braqueurs, de bandits sur la terre. Il y a les braqueurs qui utilisent les machettes, les couteaux, les armes et autres. Et il y a aussi certains braqueurs qui utilisent que la Bible, le nom de Dieu, pour braquer les citoyens qui ont besoin de l'aide spirituelle. Parfois, dans leur naïveté, ils sont obligés de verser d'énormes sommes. Et parfois, on ne les rend même vraiment pas service parce que ces personnes ne sont même pas de vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu n'a pas besoin de prendre de l'argent aux gens avant de prier pour eux. On peut bel et bien aider un serviteur de Dieu ou donner son argent à un serviteur de Dieu, mais volontairement. Lorsqu'on vous fait payer le baptême, où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit payer le baptême? Ça, c'est un exemple en passant. Parfois même le semblant de baptême. Et on vous fait payer. C'est écrit où dans la Bible? Pour célébrer les messes, on vous fait payer. C'est écrit où dans la Bible? Parfois les mariages, on vous fait payer. C'est écrit où? Ouvrez les yeux. Ça n'a rien à voir avec Dieu. que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a des choses que moi je ne peux pas voir et écouter et me taire. Ça, c'est un silence complice. Moi, je ne veux pas être complice de ces personnes qui anarclent les hommes. Parce que ce sont ces personnes qui font calomnier l'évangile et le nom de Dieu sur la terre. Si vous estimez que moi je suis un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, que je suis une bénédiction spirituelle pour vous, et qu'en retour, vous pouvez contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, que vous pouvez m'aider matériellement ou financièrement, tant mieux. Mais ça doit être volontaire. Ce n'est pas une condition que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. D'ailleurs, le Seigneur permettant, nous y reviendrons une fois de plus en détail sur cette affaire d'argent dans l'église. À la lumière des Saintes Écritures, nous allons voir les dîmes, les offrandes, comment c'était géré et comment ça doit être géré. Nous allons voir également que nous sommes très 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 loin de la vérité biblique. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous écoutez l'heure de la vérité. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Jésus a dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Très chers auditeurs, très chers auditrices, je vous invite à rester tout simplement à l'écoute. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Déjà, pour ceux qui étaient à l'écoute la dernière fois, nous avons commencé à nous intéresser à l'église. Oui, à l'église. Puisqu'on ne peut pas parler de Dieu sans parler de l'église. Autour de nous, on entend église par-ci, église par-là. Mais qu'est-ce que c'est que l'église? Parfois, les gens demandent, mais tu es de quelle église? Tu es de quelle église? Et déjà, la dernière fois, je vous faisais remarquer que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, « Je bâtirai mon église ». Jésus n'a pas dit qu'il bâtira ses églises. Il a dit « Je bâtirai mon église ». Et dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, au verset 29, la Bible nous dit également que Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Et il prend soin de cette église. Christ n'a pas aimé les églises. Christ a aimé l'église. Donc Christ n'a qu'une église. Alors, comment se fait-il que de nos jours, il y ait tellement d'églises sur la terre? Église ceci, église cela, mission de ceci, mission de cela, ministère de ceci, ministère de cela. En fait, c'est la confusion totale. Il y a tellement d'églises sur la terre. Et il y a de la confusion. Et pourtant, Christ a dit, je bâtirai mon église, pas mes églises. Et je vous ai montré à la lumière des Saintes Écritures que l'origine de ces systèmes religieux, c'est Babylone, c'est Babel. Oui, je vous ai montré que tous ces systèmes religieux n'ont rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus. Et nous étions dans Genèse, chapitre 11, à partir du premier verset, où nous avons vu que les hommes, à un moment donné sur la terre, avaient une ambition, un rêve à réaliser, un projet, un grand projet à réaliser. Et ce grand projet, cette ambition consistait à bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel. Et surtout se faire un nom. Ils ont dit, faisons-nous un nom. Nous voyons, c'est là l'origine des systèmes religieux. Les gens, à un moment donné, se sont dit, faisons-nous un nom. Et ils se sont donné un nom. Peu importe ce nom, je ne peux pas les citer ici, ils sont tellement nombreux. Vous tous qui m'écoutez, sachez que tous les systèmes religieux qui existent sur la terre, peu importe le nom qu'on lui a donné, ils sont d'origine de Babylone, de Babel. Beaucoup ne le savent pas. Oui, parce que l'ignorance tue. On peut être zélé et sincère, mais dans le mensonge, oui, parce que zèle et sincérité, ce n'est pas du tout synonyme de vérité. Être zélé et être sincère ne veut pas dire qu'on est dans la vérité. Je sais que beaucoup sont sincères quand ils servent leur religion, quand ils sont fidèles à leur religion. Beaucoup sont sincères quand ils créent des systèmes religieux et des dénominations, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la vérité. Et puisqu'ils avaient pour ambition de se faire un nom et de construire une tour dont le sommet toucherait le ciel, tout cela caractérise tous les systèmes religieux. Oui, tout cela caractérise tous les systèmes religieux. Si vous les étudiez un à un, lorsqu'on met un système religieux en place, on essaye de tout faire pour s'imposer. On essaie de tout faire pour être au-dessus des autres. On essaie de tout faire pour avoir autant de membres que possible. C'est pour cette raison que nous pouvons retrouver dans des systèmes religieux des multitudes de personnes qui ne sont pas nées de Dieu, qui ne sont pas du tout chrétiens. Et pourtant, on a tout fait pour les amener dans cette religion. En fait, les leaders, les fondateurs de ces religions, leur but, c'est tout simplement avoir autant de membres que possible. C'est de gonfler le nombre de leurs membres. C'était homme de registre. Parfois, ils disent que nous avons déjà tel nombre de membres. Ainsi, pour se distinguer des autres, ils peuvent dire que nous avons déjà tel nombre de membres. Et reste à savoir si ces personnes qui font partie de ce système religieux sont reconnus au ciel comme faisant partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez être membre d'une religion, être membre d'un système religieux et ne pas être membre du corps de Christ. Parce qu'aucun système religieux ne peut sauver. Même si c'est la première religion, aucun système religieux ne peut sauver. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Et parfois, c'est un système religieux ont pour mission, pour ambition, d'être le plus haut possible. C'est ainsi que beaucoup vont transformer les systèmes religieux en une entreprise commerciale, où on va beaucoup parler d'argent. Et beaucoup, à un moment donné, peuvent même se vanter d'être très riches. C'est normal, puisqu'ils ne sont pas là pour amener les gens véritablement au ciel, puisqu'ils sont là avant tout pour s'enrichir et avoir tout simplement beaucoup de membres. Peu importe que ceux qui viennent dans les systèmes religieux soient des chrétiens ou pas, ce n'est même pas ça qui est le plus important. C'est le fait qu'ils viennent pour gonfler le nombre de leurs adhérents et surtout pour contribuer financièrement à l'expansion de leurs systèmes religieux. Oui, voilà l'esprit qui se cache derrière le système religieux qui vient de Babel, de Babylone. Faisons-nous un nom. Bâtissons une tour dont le sommet touchera le ciel. Une fois de plus, j'insiste que tout ce que nous voyons comme un système religieux autour de nous, même si beaucoup de ces systèmes religieux ont des bonnes intentions, oui, ça c'est une réalité. Beaucoup s'efforcent de faire ce qui est bien, mais la vérité biblique, c'est qu'aucun système religieux ne vient de la Bible. Que ce soit en commençant par la première jusqu'à la dernière qui est en train d'être créée sur la terre. Qu'est-ce qui différencie les systèmes religieux que les hommes ont créés et l'église du Seigneur Jésus? Jésus a dit, je bâtirai mon église. La Bible dit, Christ a tant aimé l'église qu'il s'est livré lui-même pour elle. Donc le véritable bâtisseur de l'église du Dieu vivant, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le fondateur et c'est lui qui est la tête. Et pourtant, les systèmes religieux ont des fondateurs et ils sont la tête. C'est pour cette raison que chaque fondateur des systèmes religieux peut gérer cela comme son entreprise. Parfois, ils peuvent faire des choses qui n'ont pas de fondement biblique. Mais puisque c'est les choses, c'est normal, tout le monde s'incline. Alors que l'église du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ étant le fondateur, étant la tête en même temps, cette église est d'abord une église invisible. C'est ce qu'on appelle l'église universelle, c'est-à-dire constituée de tous les vrais croyants sur la terre. Oui, si vous voulez faire partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ, la première chose que vous devez faire, c'est vous repentir sincèrement, confesser vos péchés et accepter Jésus dans votre cœur, dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Là d'office, vous faites partie du corps de Christ, de l'église invisible du Seigneur Jésus. Et c'est cette église que Jésus-Christ reviendra chercher. Le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra pas chercher un système religieux ni une religion. Il reviendra chercher ceux-là qui ont véritablement cru en lui et qui sont nés de Dieu, habités par l'Esprit de Dieu. Et c'est cet ensemble qui forme l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est cet ensemble qui forme l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et l'une des choses qui caractérise l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est que ce n'est pas un homme qui est à la tête, mais la Bible nous dit clairement que c'est Jésus lui-même qui est à la tête de l'église dont il est lui-même le bâtisseur. Par exemple, si nous lisons dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16 au verset 18, il est écrit Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16 au verset 18, il est écrit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Verset 18, « Il est la tête du corps de l'Église. » La Bible nous dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Voilà l'une des choses qui caractérise l'Église de la Bible. C'est Jésus qui est le chef et la tête, et non un homme. Donc beaucoup ont créé des systèmes religieux et ils sont en train de tout faire pour que ce système religieux grandisse et atteigne même le ciel. Et ils appellent aussi cela Église. Mais la vérité, c'est que tout cela n'a rien à voir avec l'Église du Seigneur Jésus. L'une des choses qui caractérise également l'Église du Seigneur Jésus-Christ, contrairement au système religieux des hommes, lorsque les hommes ont dit « Bâtissons-nous une tour dont le sommet va toucher le ciel », ils devraient utiliser le ciment, les briques, pour bâtir cette tour. Et tout cela sont des éléments qui n'ont pas de vie. C'est pour cette raison que nous pouvons voir aujourd'hui que beaucoup investissent dans des briques, dans des parpaings avec le ciment, c'est-à-dire des temples. Voilà. Parfois, il y a la concurrence même du plus grand temple, ou du plus gros temple. Alors que Jésus, de son côté, utilise les pierres vivantes pour bâtir son église. Et ces pierres vivantes, ça n'a rien à voir avec les parpaings, le ciment, les briques. Ces pierres vivantes, c'est le chrétien lui-même, habité par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 21 au verset 22. Oui, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 21 au verset 22, il est écrit « En lui, c'est-à-dire en Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Verset 22, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Oui, la Bible nous dit clairement ici que ce sont les chrétiens nés de nouveau, nés de Dieu, qui s'édifient vous formez l'habitation de Dieu en esprit. Donc Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dieu n'habite pas dans les temples de parapente, de briques et autres. Même si c'est le temple le plus orné de la terre. Mais Dieu habite que dans le chrétien né de Dieu, né de nouveau, né d'esprit de Dieu. Et c'est l'ensemble de ces chrétiens nés de Dieu qui forment l'habitation de Dieu en esprit. Parce que Dieu lui-même, il est esprit. Et chaque jour, tous ceux qui sont sauvés sont ajoutés à cet édifice qui est l'église du corps de Christ. Donc, dès que quelqu'un est sauvé, Jésus-Christ l'ajoute sur son corps comme une pierre vivante. Et le jour que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, la construction va s'achever. C'est pour dire que quoi? Vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, si vous allez l'accepter aujourd'hui même, vous êtes directement ajouté à ceux qui ont déjà cru au Seigneur Jésus-Christ comme une pierre vivante et vous faites partie de l'édifice de Dieu qui est son Église, qui n'est pas un système religieux ni un bâtiment fait de briques, de parpaings, de ciment et autres. Nous sommes en train de voir la différence qu'il y a entre l'église du Seigneur Jésus-Christ et l'église des hommes. Et l'apôtre Pierre va dire dans sa première lettre, première épître au chapitre 2, verset 5, oui, l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, il va dire ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. La Bible est tellement claire et formelle. Oui, la Bible est claire et formelle. L'apôtre Pierre dit, dans sa première lettre, chapitre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc la différence qu'il y a entre les églises des hommes, les systèmes religieux des hommes qu'ils appellent églises, c'est qu'ils utilisent beaucoup de briques, des parpaings et des ciments pour bâtir des gros temple qu'ils appellent maison de Dieu, alors que de l'autre côté, le Seigneur Jésus-Christ, lui, utilise les hommes, les chrétiens nés de Dieu, comme des pierres vivantes pour bâtir son église. Les hommes utilisent les briques, les parpaings, le bitume, qui sont les choses qui n'ont pas de vie en elles-mêmes, et Jésus-Christ utilise les pierres vivantes, qui sont les chrétiens nés de Dieu. Nous sommes en train de voir l'église selon la Bible et l'église selon les hommes. L'église selon Jésus-Christ, la Bible appelle également le corps de Christ. Oui, le corps de Christ. Donc la véritable église biblique qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ est également son corps. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un système religieux. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, verset 22, verset 23. Ouvrez grandement vos cœurs, vos oreilles et surtout relevez ces versets et après vérifiez par la suite. C'est très très important que désormais vous sachiez beaucoup de choses concernant l'église. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23, il est écrit. Il l'a donné pour chef suprême à l'église. Oui, le chef suprême de l'église, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Malheureusement, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de systèmes religieux qui ont des hommes comme des chefs suprêmes. Ce sont eux qui dirigent d'une main de fer. Et tout ce qu'ils disent, on respecte à la lettre, que ce soit biblique ou pas. On dit que le chef a dit, le patron a dit, tout le monde se soumet. Ça, ce sont les choses des hommes. Ce sont les églises des hommes, les entreprises des hommes. La véritable église biblique, c'est Jésus qui est le chef. Les hommes qui sont là pour enseigner doivent faire ce travail, mais il revient à l'assemblée d'examiner ce qu'on les enseigne pour être sûr que c'est biblique. Oui, les anciens d'une assemblée locale qui doit être autonome sont là pour examiner tous les enseignements et toutes les doctrines. Et quand ce n'est pas biblique, même si c'est un ange qui a apporté cet enseignement, la Bible va dire qu'il soit maudit, anathème. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Galates, chapitre 1, à partir du verset 8, où il est écrit, mais si nous-mêmes, comprenez ce que l'apôtre Paul dit, dans Galates, chapitre 1, à partir du verset 8 au verset 10, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ou maudit. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'apôtre Paul est formel que même si c'est un ange du ciel qui revient vous prêcher un autre évangile, vous dites qu'une assemblée doit examiner tout ce qu'on les enseigne, même si c'est le chef, le grand patron. La Bible nous dit que même si c'est un ange qui vient avec un autre évangile, qu'il soit maudit. Pour vous dire qu'il n'y a pas un homme qui doit diriger, régner sur l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le chef. Et si l'église est son corps, elle doit se soumettre avant tout à son chef, qui est Jésus-Christ lui-même, et non à un homme, même s'il est le fondateur, même s'il est le grand patron. Nous étions dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 22 au verset 23, où il est écrit, il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Verset 23, qui est son corps? Donc l'église est le corps de Christ. Et chaque chrétien fait partie de cette église qui est le corps de Christ. Donc ce n'est pas un système religieux, ce n'est pas une dénomination. Et pour compléter, dans la même lancée, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 et 13, où il est écrit. Oui, 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 et 13, il est écrit. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Puis la Bible nous dit que dès que quelqu'un croit, il reçoit le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit l'introduit dans le corps de Christ, qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas un système religieux. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous faites partie du corps de Christ? Je ne vous demande pas si vous faites partie d'un système religieux ou d'une religion. Parce que vous pouvez faire partie d'un système religieux créé par les hommes ou par un homme, et ne pas faire partie de la véritable église du Seigneur Jésus-Christ qui est le corps de Christ. Et l'une des choses qui introduit quelqu'un dans le corps de Christ, c'est le fait qu'il reçoit le Saint-Esprit quand il se convertit, quand il se repent sincèrement. Je tiens vraiment à ce que cela soit vraiment très très clair. Avant de vous vanter d'appartenir à un système religieux, avant de défendre votre système religieux de tout votre cœur, rassurez-vous au moins d'une chose, que vous faites partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas votre système religieux, mais qui est le corps de Christ, qui est tout simplement l'ensemble de tous ceux qui sont nés de Dieu, nés d'Esprit de Dieu, lorsqu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Rappelez-vous, Jésus avait dit à Nicodème, qui était un docteur de la loi, un spécialiste de la religion en Israël, qui avait la meilleure religion de son époque, le judaïsme. Mais Jésus lui avait dit, si tu ne nais d'eau, si tu nais de nouveau, tu nais d'esprit de Dieu, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. Oui, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour faire partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ, il faut être né de nouveau. Et naître de nouveau, ce n'est que lorsqu'on se repent sincèrement et qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Et à l'instant même, le Saint-Esprit de Dieu vient dans votre cœur. Et c'est ce Saint-Esprit qui produit en vous, dans votre cœur, la nouvelle naissance. Très chers auditeurs, très chères auditrices, nous sommes en train de parler de l'Église. L'Église selon la Bible et l'Église selon les hommes. Et à la lumière des Saintes Écritures, nous avons vu que tous les systèmes religieux qui existent sur la terre ne viennent pas de la Bible. Les origines viennent de Babel, de Babylone. Aucune personne ne peut, à la lumière des Saintes Écritures, dire que son système religieux vient de la Bible. Aucun système religieux ne peut prétendre en toute sincérité cela. Mais nous avons vu dans Genèse chapitre 11 que les hommes qui avaient une ambition, un projet à réaliser, à savoir se faire un nom et surtout bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel, c'est là l'origine des systèmes religieux. Chaque système religieux se bat à son niveau pour toucher le ciel et surtout se faire un nom. C'est pour cette raison qu'il y a la guerre des religions. Parfois, vous pouvez voir les leaders des religions s'entretuer. Chacun dit non, c'est moi qui ai la meilleure religion, c'est notre religion qui est la meilleure. Il faut venir chez nous. Les autres là, non, c'est chez nous. Nous sommes les meilleurs. Certains vont même aller jusqu'à dire, tu es en train de voler nos brebis. Tu voles mes âmes. Depuis quand les âmes du Seigneur sont devenues les âmes des hommes et des systèmes religieux? Un chrétien né de Dieu est libre d'aller dans n'importe quelle assemblée pour adorer Dieu. Si dans ce milieu, c'est vraiment Dieu qui est adoré en esprit et en vérité. Parce que ce sont ces assemblées locales maintenant qui forment de façon visible le corps de Christ. J'y reviendrai en détail. Donc on ne vous prenne pas en otage dans un système religieux. Comme si c'est ce système religieux qui était mort pour vous à la croix. Aucun système religieux ne peut donner la vie éternelle. Et un chrétien doit être libre d'adorer Dieu dans n'importe quelle assemblée. Quand il dit dans n'importe quelle assemblée, ça ne veut pas dire que c'est parce que vous comprenez qu'on chante Alléluia, quelque part vous allez là-bas. Non. Si dans cette assemblée, on prêche la vérité, on pratique la parole de Dieu, là c'est bien. Parce que je sais qu'il y a très peu de vraies assemblées bibliques sur la terre. Très chers auditeurs, très chères auditrices, nous sommes bientôt à la fin de notre émission de ce jour. Et nous sommes toujours en train de parler de l'Église, l'Église selon la Bible. Mais avant de nous séparer, nous allons lire dans la première épître de Pierre, l'apôtre Pierre, chapitre 4, le verset 17. Parfois, certaines personnes peuvent écouter certaines choses et dire, il juge et l'équipe pour juger. Lisons ce que l'apôtre Pierre lui-même va dire dans sa première lettre, chapitre 4, le verset 17, où il est écrit. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Comprenez bien ce que l'apôtre Pierre dit. Or, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est pas nous qui le commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Amen. La parole de Dieu est claire. L'apôtre Pierre dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Donc, il faut qu'on réforme les choses. Il faut une réforme profonde en ce qui concerne l'église de Dieu, la maison de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il revient chercher son église. Et cette église-là doit être glorieuse, sans tache, sainte, irréprochable. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 25. Lisez, Jésus dit que l'église qu'il revient chercher est une église sans tache, sainte, irréprochable et glorieuse. Et lorsque nous voyons les systèmes religieux autour de nous de nos jours, nous sommes très très loin de cet idéal du Seigneur. Et si Jésus n'est pas encore venu, oui, certaines personnes, lorsqu'on leur dit que Jésus-Christ va revenir, ils disent que Jésus avait dit qu'il revient. Quand est-ce qu'il reviendra? Si Jésus tarde, c'est parce qu'il veut purifier son Église. Il ne peut pas enlever son Église dans l'état où elle est actuellement. Elle est tellement souillée par les fausses doctrines, les faussetés, les mensonges. Et l'heure de la vérité contribue, oui, cette émission, l'heure de la vérité contribue à ramener le peuple de Dieu sur le droit chemin. Et quand vous écoutez, il vous revient de prendre une décision. Mais vous ne direz pas que je ne savais pas, je n'avais pas compris. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir comme un voleur et que vous serez laissé sur cette terre pour affronter les tribulations, lorsque le diable va prendre ce monde en otage, c'est à partir de ce moment que vous comprendrez beaucoup de choses. Parce que Jésus peut venir à tout moment pour enlever son Église, qui n'est pas un système religieux, mais qui est l'ensemble de tous les chrétiens nés de Dieu qui se purifient et qui se conforment à sa sainte parole pour l'attendre. Parce qu'il a dit que je reviendrai comme un voleur. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc à tout moment, Jésus peut venir. Vous qui m'écoutez, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, purifiez-vous, sanctifiez-vous, conformez-vous à la parole de Dieu. Ne vous conformez plus au dogme de votre religion. Conformez-vous à la parole de Dieu. Et vous qui n'êtes pas encore enfant de Dieu, né de Dieu, même à partir de ce moment même, vous pouvez le devenir sans avoir dépensé un sou. On est sauvé par la foi. La Bible nous dit que c'est un don gratuit de Dieu. Et avant de finir, j'invite une fois de plus ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ à faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que je crois de tout mon cœur que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que je suis perdu dans mes péchés. Mais je crois que tu es mort à la croix pour moi. Seigneur, je me donne à toi tel que je suis. S'il te plaît, pardonne-moi. Purifie-moi. Lave-moi par ton sang précieux versé à la croix. Et viens dans mon cœur par ton Esprit Saint. Et fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi un membre de ton corps. Ton Église. Seigneur Jésus, je prends l'engagement et la décision de te suivre jour après jour et de faire ta volonté. Par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, donne-moi la force dont j'ai besoin pour te suivre. Merci de m'écouter et merci de m'exaucer et que toute la gloire te revienne. Amen. Si vous avez fait cette prière avec foi, croyez-moi, le Seigneur vous a écouté et il vous a exaucé. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous et par la grâce de Dieu, nous allons continuer prochainement. Que la gloire, les honneurs, l'élévation, les actions de grâce, la magnificence, le règne reviennent à celui-là seul qui est digne de les recevoir. L'alpha et l'oméga, le prince de paix, l'admirable conseiller, son excellence, toujours imité mais jamais égalé, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr.
C'était l'heure de la vérité. L'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange. Mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Vienji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. L'évangile de Jean chapitre 14, le verset 6. Et le Seigneur Jésus-Christ dit aussi, je suis la lumière du monde. Celui ou celle qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il ou elle aura la lumière de la vie. Qu'attendez-vous donc pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur? Si le Seigneur Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Seigneur Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prête?